Le livre du chapitre 1 jusqu'au chapitre 42. Voilà. Puisque c'est la dernière fois, il faut tout faire. Alors, Job chapitre 1, qu'est-ce qui se passe? Dans une phrase, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut nous dire? Voilà, dans un mot, catastrophe. Oui, Job perd, qu'est-ce qu'il perd? Il perd tout. Sa famille, ses biens, il perd vraiment tout. Et puis Job chapitre 2, Job est maintenant frappé dans son corps. Ça, c'est au chapitre 2. Et puis à la fin du chapitre 2, il reçoit la visite. Qui vient lui rendre visite? Voilà, il a trois amis qui viennent. Et ils viennent et ils s'assoient là sans rien dire pendant 7 jours en fait. Ils voient la douleur et le chagrin de Job. Et puis à partir donc du chapitre 3 commencent les discours de Job et de ses trois amis. Donc c'est un qui va parler, l'autre qui va répondre, un qui va répondre, Job va répondre. Job a, je crois, en tout cas, au moins neuf discours. Sauf si on veut diviser le dernier en trois. Donc certaines personnes disent qu'il a 11 discours. Mais en tout cas, à 9 reprises, il va parler, prendre la parole. Et puis ses amis aussi vont parler. Le chapitre 4 et 5, c'est le premier discours d'Eliphaz. Le thème de ce premier discours, en face de Job qui souffre, est que personne n'est innocent. D'accord, donc c'est une vérité, mais face à quelqu'un qui souffre, il y a toujours des sous-entendus sous ces vérités. Et Eliphaz exhorte Job à accepter son châtiment en lui promettant que Dieu rend le bonheur à qui s'adresse à lui. Regardez chapitre 5, verset 18, je le lis dans la Bible Semeur. « Car Dieu inflige la blessure, mais il la panse aussi. Et même s'il meurtrit, sa main guérit. » Donc oui, ces choses arrivent comme châtiment, mais Dieu aussi va te rétablir. Et puis les chapitres 6 et 7, donc on avance, la réponse de Job à Eliphaz, il dit qu'il se sent trahi par ses amis. Et il commence à démontrer son amertume. Mais en fait, on voit des propos qui deviennent de plus en plus forts d'un côté et de l'autre à travers ce livre. Regardez chapitre 6, verset 14. L'homme désespéré a droit à de la compassion de la part d'un ami. Oui, même s'il cessait de craindre le Tout-Puissant. Mes amis m'ont trahi comme un torrent, comme un de ces cours d'eau dont le lit est sec. Il dit, chapitre 6, verset 29, « Revenez, ne soyez pas injustes, revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue ?» Et malheureusement, c'est quelque chose qu'ils ne vont jamais reconnaître jusqu'à la fin, son innocence. On va faire face à ça tout au long de ces échanges. Mais malgré son innocence, voici sa souffrance. Regardez le chapitre 7. Il dit « Ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis « Quand me laverai-je? Quand finira la nuit? » Est-ce que vous avez passé des nuits comme ça, où la souffrance vous réveille, vous êtes fatigué, mais la souffrance vous réveille? Lui, il a dit, je passe des mois maintenant comme ça. « Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de vers et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. » Verset 6 dans la Semeur dit « Mes jours se sont enfuis plus rapides que la navette d'un tisserand habile. Ils tirent à leur fin sans qu'il n'y ait d'espoir. » Vous savez, les tisserands, les roues qui tournent comme ça, et ils tissent rapidement. Il dit « Je vois ma fin arriver comme ça. Et il y a sans d'espoir que les choses vont changer avant ma mort. » Mais c'est ici où nous voyons un élément nouveau. Regardez verset 7. Donc Job 7, verset 7. Souviens-toi que ma vie est un souffle, mes yeux ne reverront pas le bonheur. Qu'est-ce qui est nouveau dans ce verset? Quelque chose qu'il n'a pas encore fait jusqu'à présent. Voilà, très bien. Il parle maintenant à Dieu. C'est ce qu'on appelle la prière. Je regardais pour vérifier, je crois vraiment que c'est la première fois qu'il... Bon, chapitre 1, il loue Dieu, il adore Dieu. Mais dans ses échanges, c'est sa deuxième donc, intervention et il commence à prier Dieu, il prie. Regardez le verset 13, Job 7, verset 13. « Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. » Donc on voit, c'est presque comme s'il a oublié ses amis et il part directement à Dieu. Dans la deuxième personne. Il les tue, on les voit après, on ne les voyait pas avant, mais on les voit maintenant après. Il dit verset 15, « Ah, je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plutôt que ces os. Je les méprise, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle, c'est un souhait de mort qui donne à Dieu. » Qu'est-ce que l'homme, verset 17, pour que tu fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants, quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Parce que ce n'est pas un regard de grâce qu'il sent, hein, mais de douleur. Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Ce n'est pas beaucoup de temps, hein, ça ne prend pas beaucoup de temps. Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? L'idée ici, c'est celui qui sonde les hommes, qui sonde les cœurs. Voyons donc un homme qui parle à Dieu dans sa souffrance. Il parle à Dieu, peut-être c'est la chaleur hein, qui vous fait pleurnicher, ben, il pleurniche à Dieu. Et puis on avance, Job 8, c'est le premier discours de Bildad. Le deuxième sera au chapitre 18. Donc on a Job 8 et 18. Bildad affirme le châtiment de l'impie et insiste que Dieu est juste. Donc encore, ce qu'il suggère, c'est que Job est injuste et donc il souffre parce qu'il est injuste. Et puis Job 9 et 10, c'est la réponse de Job à Bildad. C'est sa troisième intervention maintenant. Job reconnaît le péché de l'homme. Que Dieu est plus fort, il ne nie pas que tout son péché, dans ce sens, mais il demande, Dieu, pourquoi t'en prends-tu à moi? Pourquoi moi? Pourquoi cette souffrance? Et on voit qu'il ne va pas bien. Regardez le verset, chapitre 10, premier verset. Il dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Pourquoi tu m'as choisi pour me punir, il me semble, de cette façon. Alors, ce n'est pas beau, mais c'est tout de même une prière. On voit encore dans sa réponse, au lieu de parler directement à ses amis, ce qu'il fait, il va ensuite, il parle, ses discours changent en prière à Dieu. Puis au chapitre 11, on avance. Premier discours de Tsophar, la sagesse de Dieu nous dépasse. Alors Tsophar invite Job à s'éloigner de l'iniquité et lui dit en somme qu'il mérite pire, qu'il reçoit. Et nous voyons ici que les propos deviennent de plus en plus forts des deux côtés. Tsophar dit, regardez verset 7, Job 11, verset 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? C'est vraiment une accusation assez forte. Et puis Job, les chapitres 12, 13 et 14, nous avons sa quatrième intervention. Et il reproche à ses amis de... Et il leur dit que Dieu fait en fait ce qu'il veut. Ce n'est pas toujours une cause à effet. Pas que, ah, tu as fait quelque chose, donc Dieu réagit. Non, Dieu fait ce qu'il veut. Même si on ne le comprend pas. Regardez chapitre 12, verset 1. Job prit la parole et dit, on dirait en vérité que le genre humain, c'est vous. Et qu'avec vous, droit mourir, la sagesse. C'est-à-dire, quand vous mourrez, il n'y aura plus de sagesse dans le monde. On voit le sarcasme qui sort. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi. Je ne suis point inférieur. Mais au chapitre 13, notez sa demande la plus chère. C'est vraiment ça qui va ressortir de plus en plus, son plus grand désir dans sa souffrance. Job 13, verset 1. « Voici, mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis point inférieur. » C'est ce qu'il a dit déjà au chapitre 12. Mais notez le verset 3. « Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. » Ça, c'est vraiment le désir le plus intime. Ce n'est pas simplement d'être guéri, d'avoir la vie tranquille. Quoique, il dit, je préfère mourir à ça. Mais ce qu'il veut vraiment, c'est de pouvoir parler au Tout-Puissant et de plaider sa cause devant Dieu. Il imagine peut-être une cour où il y a un juge et Dieu va parler, l'accuser, et puis il va pouvoir se défendre et il va pouvoir prouver qu'il est en fait innocent par rapport à la grandeur de cette souffrance, en tout cas, qu'il connaît. Et il promet quand même qu'il ne cessera jamais de croire en Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu vient, quand il me juge, il ne me trouvera pas infidèle. Et il dit donc au verset 15, Job 13, verset 15, « Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. » Vous voyez, c'est ce qu'il veut. Il veut aller devant Dieu défendre sa conduite. Mais nous voyons encore qu'il commence à parler directement à Dieu. Regardez le verset 20, Job 13, verset 20. « Seulement, accorde-moi deux choses. » Il parle à Dieu ici, pas à ses amis. « Et je ne me cacherai pas loin de ta face. Retire ta main de dessus moi, et que tes terreurs ne me troublent plus. Puis appelle et je répondrai. Ou si je parle, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités ? De mes péchés. Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi ? Vous voyez ça, c'est encore ta douleur. Pourquoi tu te caches ton visage ? Pourquoi tu ne réponds pas quand je te parle ? Viens m'appeler, moi je répondrai. Bon, on va sauter jusqu'au chapitre 26. Ça c'est la neuvième intervention, le dernier discours de Job, après la troisième intervention de Bildad. Et Job 26 à 31, en fait, ce sont toutes les paroles de Job. Mais regardez le chapitre 27, verset 2. Job 27, verset 2. « Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume et vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux, loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. » Vous voyez, il devient de plus en plus insistant et veut se défendre devant Dieu. Et puis on arrive à la fin de son discours, regardez le chapitre 32. On va vite quand même, non? Déjà au 32. Job 32, verset 1, « Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job. parce qu'il se regardait comme juste. Vous n'avez plus rien à dire. Vous m'avez dit qu'il y avait trois amis. Et en fait, caché un quatrième, qui n'a rien dit jusqu'alors. Et verset 2 dit, « Alors s'enflamma de colère Élihu, fils de Barakel, de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu, et sa colère s'enflamma contre ses trois amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre, et que néanmoins ils condamnaient Job. Et comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. » Déjà une bonne chose de sa part. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élihu s'enflamma de colère, et Élihu, fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit, et son discours dure 6 chapitres. Donc il a peut-être parlé en dernier, mais il parle beaucoup quand même. Il faut aller jusqu'à Job 38, pour voir maintenant, donc on a 4 amis, on a Job et on a un 5e personnage maintenant qui va parler. Et c'est qui? C'est Dieu. Regardez le chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Alors, je vous ai déjà dit que plusieurs fois Job avait parlé de faire face à face à Dieu, comme dans une salle de tribunal. C'est ce qu'il imaginait. Quand Dieu allait venir, il allait parler, etc., il allait pouvoir répondre. Mais voici que Dieu lui parle d'où? Au milieu de la tempête. Hein, il a eu des tempêtes dans le premier chapitre, et là, donc, vous voyez, le contexte change complètement, en fait, de ce qu'il pensait, de ce qu'il imaginait. C'est pas contexte très calme et posé où chacun prend la parole au tour de rôle. Là, c'est la tempête qui arrive et Dieu lui parle dans la tempête. On ne peut pas imaginer ce que ça aurait dû avoir comme impact sur l'esprit et le cœur de Job. Et Dieu dit verset 2, donc Job 38 verset 2, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Et on voit qu'il parle à Job parce qu'il dit, verset 3, « S'interrogeant comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Et puis Dieu commence à lui poser des questions. La première, « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Bon, on a déjà un peu le goût des questions qui vont suivre. Parce que c'est clair que Job n'y était pas. Parfois j'entends des parents qui disent ça à leurs enfants. « Écoute, je suis né 35 ans avant toi. » Et la réponse de Job, si vous regardez le chapitre 39, verset 37, si vous avez un Louis II ou NEG, si vous avez d'autres traductions, c'est Job 40, verset 4. Il dit, « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je ? » En fait, il admet qu'il n'a rien à dire, il veut rien dire. Il préfère ne rien dire. Mais Dieu n'est pas satisfait et Dieu revient encore vers Job comme avant. Regardez Job 40, verset 1, ou si dans d'autres traductions, 40, verset 6. « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « S'interrogeant comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Vous voyez, c'est la même en fait, phrase qu'il a déjà utilisée. Et donc, il revient de la même façon. C'est comme si il n'était pas satisfait avec la réponse, donc on va lui adresser encore la parole. Et Job 42, regardez le chapitre 42, maintenant la deuxième réponse de Job à Dieu. Job 42, verset 1, Job répondit à l'Éternel, maintenant la deuxième fois, et il dit plus que je ne dis rien. Parfois dans une argumentation ou dans une dispute, une personne cesse de parler parce que elle sait maintenant qu'elle ne peut pas gagner. Donc elle se tait. Mais l'autre personne est rarement satisfaite par cela. Et Dieu n'était pas satisfait non plus. Et maintenant Job dit, verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Et maintenant ici, Dieu, vous allez reconnaître cette phrase. « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» C'est ce qu'il avait dit au verset chapitre 38. Et il dit, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre. » Il admet, « C'est moi. Tu as dit ça, Dieu ?» C'est vrai. C'est moi. Ça, ça prend de l'humilité, de dire ça. Dieu a dit ça, et oui, il a raison, ça c'est moi. Et puis il cite encore, c'est encore Job ici, « De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Et puis verset 4, là encore ici, « Dieu, écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Dieu avait dit ça deux fois. Et qu'est-ce que Job peut dire à ça? Il fait plus que simplement se taire. Il dit, c'est vrai, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. À la fin du chapitre 1, il était dans la poussière à cause de toute la douleur, et on le comprend. Et maintenant, il est dans la poussière par repentance de son propre orgueil. Et là, c'est une belle chose devant Dieu. Il faut savoir que Job ici est toujours en train de souffrir. Il gratte encore, il a toujours mal. Ses enfants sont toujours morts. Sa femme est toujours contre lui. Il n'a plus rien. Il est encore pauvre, il souffre encore. Mais contrairement à sa première réponse au chapitre 40, qui était en réalité un refus de répondre, ce discours résout vraiment la dispute de Job avec Dieu. Car il reconnaît le droit de Dieu de pouvoir tout faire. Même si Job ne le dit pas, c'est comme s'il confesse que Dieu a le droit maintenant de faire souffrir une personne innocente. Est-ce que vous êtes d'accord que vous pouvez être innocent par rapport à quelque chose et Dieu peut vous faire souffrir? Ça, c'est très dur pour l'être humain à admettre. Alors, ce qui est nouveau dans la connaissance de Job, c'est que Dieu peut faire toutes choses. Vous voyez ça au verset 2, il a dit « Je reconnais que tu peux tout ». Et là, il ne parle pas de la force de Dieu. Il ne parle pas « Ah, maintenant je sais que tu es fort, tu peux tout faire ». Non, il a vu ça au chapitre 1. Il nous l'a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Donc il reconnaît la toute-puissance dans ce sens-là. Mais quand il dit « Je reconnais que tu peux tout », c'est que Dieu a toujours un but inéluctable à laquelle on ne peut pas échapper dans tout ce qu'il fait. Il peut tout faire, il peut tout amener à son but et à son dessein. Et la souffrance de Job donc a un sens pour Dieu, même si Dieu ne l'a en aucune façon expliqué ou justifié à Job. En fait, l'erreur de Job a été de diriger une réponse au problème de la souffrance et de s'amisser, d'entrer dans un domaine en fait qui était au-dessus de lui, qui n'était pas à sa portée, le pourquoi et le comment de Dieu. Et donc il dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. En fait, c'est des choses auxquelles j'aurais pas dû même m'aventurier. Et nous avons ici un contraste entre une théorie concernant Dieu et une expérience de Dieu, ou une relation avec Dieu. Regardez le verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Ça, c'est la théorie. J'avais la théorie de Dieu, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ça, c'est l'expérience avec Dieu, la relation avec Dieu. Et quand on a cette relation, en fait, ça éclate souvent nos théories. Et Dieu va maintenant parler de Job. Et il dira la même chose deux fois. Et ça, c'est très beau, je crois, par rapport à notre ami Job. Regardez le verset 7, Job 42, verset 7. « Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Téman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Donc il dit de Job qu'il a obscurci les seins de Dieu par des discours sans intelligence, mais là il dit que Job a parlé avec droiture. Il dit les deux. Et je crois que ce que nous pouvons tirer de cela, c'est que Dieu lit tout le message. Hein, pas seulement les paroles elles-mêmes, mais l'homme, la situation, d'une façon que les consolateurs de Job ne pouvaient pas le faire. Et donc, Dieu, dans un sens, est moins choquable, si c'est un mot. Ou plus exactement, il est choqué, ému par différentes choses, parce qu'il regarde au cœur, il est même affligé de nos afflictions. Et donc, dans un sens, il obscure des choses, mais il voit aussi qu'il parle avec justesse, comme ses amis ne l'ont pas fait. Il voit son cœur, il voit leur cœur. Et donc, il dit, verset 8, Job 42, 8, « Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste, Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est à part égard pour lui seul que je vous traiterai, que je ne vous traiterai pas selon votre, quoi ? Folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, et là il dit pour la deuxième fois, comme l'a fait mon serviteur Job. » Donc Job est toujours malade, Job est toujours souffrant, et là il doit prier pour ses amis. Mais c'était quoi leur folie ? Je crois qu'une chose, en tout cas, est qu'ils parlaient simplement de Dieu à la troisième personne. Mais Job, malgré ses mécompréhensions, il va directement pour s'adresser à Dieu lui-même. Ça, c'est une des grandes différences dans tout ce discours. Chaque fois, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. Ils ont la philosophie, ils ont la théorie, ils ont leur doctrine à eux. Et Job, il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Job voulait avant toute chose rencontrer Dieu et lui parler. Il a certainement été surpris par la majesté, la grandeur de Dieu quand cela est arrivé, mais il a reçu sa demande. Sa plus grande requête, il a reçu. Il a pu entendre Dieu lui-même. Alors, quelles applications de cette vue d'ensemble de ce livre ? Je dirais trois choses. Premièrement, cessant de formuler de nouvelles théories de Dieu, allant directement à Dieu dans la prière. Il y a des théories concernant la souveraineté de Dieu. Dieu est clairement souverain sur toute chose. Il est aussi vrai que Dieu dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, au lieu de formuler encore une autre théorie, parce qu'il y en a déjà beaucoup, allons directement à Dieu. Qui voudrait prier à un Dieu qui n'est pas souverain ? Ça vous intéresse de prier à un Dieu qui n'est pas souverain ? En fait, la souveraineté de Dieu, le fait qu'il contrôle toutes choses, devrait nous inciter à prier. Deuxièmement, dans vos prières, ouvrez à Dieu tout votre cœur. Tout votre cœur. Il faut lui dire tout. Et ceci même si vous sentez plus tard un peu comme Asaph qui a dit « J'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. » Après il se dit « Mais qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pensé Seigneur, quelle honte !» Job avait probablement le même sentiment. Mais tant qu'il l'a, il faut le dire à Dieu. Mais troisièmement, sachez que quand Dieu vous répond, ce ne sera jamais sur vos termes ou selon vos conditions. Donc on prie, on prie, on prie, on prie, Dieu répond, Dieu répond. Mais quand Dieu répond, sachez-le, ce ne sera pas comme vous avez imaginé. Ça n'a pas été comme Job a imaginé. C'était dans la tempête que Dieu est venu, avec ses questions une après l'autre, pour l'humilier. Mais je vous assure qu'à la fin, Job était heureux que Dieu soit venu. Il n'a pas dit, ah mince, j'étais un peu déçu, je pensais qu'il allait. Non, non, non. Il a dit, maintenant je te vois. tu m'as répondu. Et ta réponse est toujours la meilleure. Et la Bible dit, la Bible promet qu'un jour nous verrons notre Sauveur. Nous le verrons. Et nous serons comme lui. Et nous allons... La seconde qu'on le voit, on ne va pas dire « Mais j'ai une question, pourquoi tu as fait ça, Seigneur ?» Mais, et là, je ne comprends pas. Non, il n'y aura pas ces questions. On va dire « C'est vrai. Il y a beaucoup de choses, j'avais tout... Mais maintenant, je te vois. Je te vois et je t'adore. Quelle grâce, Seigneur, de m'avoir sauvé et œuvré toute ma vie pour mon bien. Et avait cherché ta gloire dans mon bien-être. Quelle grâce. » Donc prions le Seigneur ce soir avec confiance. Amen.